Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 20 janvier 2024 et on est au plus haut de tous les temps sur le S&P 500. L'indice américain a terminé vendredi soir au plus haut historique, jamais dans l'histoire américaine et dans les autres histoires d'ailleurs. Nous avions vu le S&P 500 à un pareil niveau, 4840 et des poussières. C'est de la folie. Nvidia a ajouté 200 milliards de market cap à sa société, à la valorisation de sa société depuis le 1er janvier. C'est du jamais vu. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le plan fonctionne parfaitement. Bon, ce plan-là, hein, le plan de l'intelligence artificielle et de la croissance des nouvelles technologies, parce que pour le reste, c'est toujours un peu plus compliqué, parce que c'est vrai qu'il faut quand même retenir que cette semaine qui vient de se terminer aura quand même été un peu la semaine où on peut dire qu'on a renoncé au fait de voir un jour les taux baisser en mars 2024. Alors, certainement que les taux baisseront un jour, un certain mois de mars, probablement pas celui de 2024, mais en tous les cas, les taux baisseront un jour, à un mois de mars, on ne sait pas quelle année, mais en tout cas, celui de cette année, ça va être compliqué. D'ailleurs, si on regarde un peu les sondages, puis si on écoute ce qui est écrit à droite à gauche dans les médias financiers, eh bien, on nous a dit quand même que vendredi, les traders, ils ont renoncé à l'espoir de voir une baisse des taux au mois de mars 2024. Et le jour où on renonce à voir une baisse des taux en mars 2024... Eh ben, on va au plus haut de tous les temps sur l'indice américain. Va comprendre, Charles, comme disait l'autre. Donc oui, vous l'aurez compris, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais surtout, on continue dans cet esprit de voir le verre à moitié plein. Je vous l'ai dit tout au long de la semaine sur les Morning Bull Live, c'est pas une énorme surprise, mais c'est vrai qu'on continue à se conforter dans cette situation, de se dire « oui, mais de toute façon, ça ira mieux demain, oui, mais de toute façon, l'inflation va bien finir par ralentir, oui, mais de toute façon, l'emploi finira bien par ralentir ». On a eu d'ailleurs quelques preuves théoriques cette semaine, avec le Beige Book. Donc on se dit que oui, ça ira mieux un jour, peut-être pas ce qu'on avait espéré, peut-être pas aussi vite que ce qu'on avait espéré durant toute la période novembre-décembre, que j'ose encore le rappeler une fois, c'est un peu pour ça qu'on est monté, parce qu'on allait rapidement baisser les taux, et là on est en train de dire non, plus ou moins, oui on les baissera, mais plutôt sur le Q3 on va les baisser, mais là pour l'instant c'est trop tôt, faut pas trop compter là-dessus, mais nous on s'en fout, on se raccroche à autre chose, on continue à voir le verre à moitié plein, il y a toujours beaucoup d'optimisme, les mauvaises nouvelles ne font pas baisser les marchés, donc il faut juste pour l'instant ne pas, comme on dit en jargon de trader, ne pas pisser contre le vent, bien sûr, parce que sinon on aura les chaussures mouillées, et donc du coup, eh bien forcément les marchés sont en pleine forme, malgré finalement une semaine qui restera marquée par des chiffres qui sont beauf pas exceptionnels, surtout parce qu'on voit que l'emploi, eh bien, il ralentit pas vraiment, que l'inflation ne ralentit pas vraiment, et puis on voit aussi et toujours que les banquiers centraux sont toujours plutôt au quiche que de viche, et que même ceux qui avaient laissé espérer qu'on aurait rapidement une baisse des taux, ils sont en train de revenir un petit peu en arrière, parce que oui, l'objectif target de 2% sur l'inflation, il semble loin, très très loin, et très très difficile d'accès. Autant la baisse de 9% à 4%, ça a été facile, autant là, on a l'impression que the last mile, le dernier kilomètre, c'est comme sur un marathon, eh ben, c'est beaucoup plus difficile à obtenir. Par contre, alors, du côté technologie et intelligence artificielle, on a eu, alors, bien évidemment, au milieu de semaine, on a eu les chiffres de TSMC, hein, Taiwan Semiconductor, qui sont venus nous dire que ça allait bien, que les chiffres étaient bons et que les perspectives surtout étaient superbes, et c'est surtout ça qui nous a intéressés à mort, puisque du coup, eh bien, tout le secteur des semi-conducteurs s'est littéralement envolé. On le verra tout à l'heure sur les performances et sur le graphique, mais le SOX a terminé en hausse de 7% sur la semaine, donc c'est du délire total. On nous dit intelligence artificielle, croissance, bam, et puis on s'en fout, tout le monde part en courant derrière. Et toutes les bases fondamentales de l'analyse fondamentale de l'économie, en se disant oui, on a besoin de ci pour que ça fonctionne comme ça. Pour l'instant, il faut juste prendre une serviette avec un pchit-pchit pour nettoyer. On oublie les lieux communs, on oublie ce qu'on nous a appris dans les écoles de finance ou dans les universités ou dans les bouquins économiques, parce que ça marche plus du tout comme ça. Pour l'instant, on est juste en train de d'augmenter encore et encore et encore nos expectations, nos attentes pour le futur, où on se dit mais ça va être tellement facile avec l'intelligence artificielle, tout ira beaucoup mieux, tout fonctionnera beaucoup plus vite, ça rapportera beaucoup, 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 beaucoup plus d'argent aux sociétés, et tous ceux qui prendront le train en marche, eh bien, ce sera, plus ils le prendront tard, plus ce sera difficile. Donc, tous ceux qui le prennent maintenant, ça sera, bien sûr, forcément extraordinaire. Donc, on a eu un gros... Heureusement qu'on a l'intelligence artificielle. C'était vraiment le truc de la semaine dernière qui nous a, je dirais pas sauvé la semaine, mais en tout cas, bien aidé à terminer aussi bien que ça, parce que encore une fois, si on regarde seulement sur l'aspect macro, eh bien, on était bien mal embarqué. Et puis alors, pendant qu'on est en pleine euphorie grâce à l'intelligence artificielle et à tout le reste, on notera quand même que sur l'Allemagne, qui est quand même un pays plutôt important sur le continent européen, eh bien, on notera quand même que l'Allemagne a annoncé que 2003 se terminait sur une baisse de 0,3% de la croissance, donc... Ça se rapproche plus ou moins de la définition d'une récession hein, sur toute l'année 2023. Que l'un dans l'autre, eh bien, ils annoncent aussi au passage que l'inflation, elle repart à la hausse, 3,7%, un peu comme partout dans le reste du monde. On rajoute à ça le pétrole qui monte gentiment, gentiment, en direction des 75 dollars petit à petit. Il est dans un triangle ascendant qui est en train de nous dire que peut-être on va casser à la hausse. Puis quand on va casser à la hausse, on va dire « Ouh, mais le pétrole à 80, ça arrange personne ». Mais pour l'instant, on ne s'inquiète pas de ce genre de choses. Et puis, l'inflation est toujours quelque chose qui est à la mode, puisqu'on parle toujours beaucoup de l'augmentation des coûts, des biens, des matières premières, à cause de toutes ces tensions qui se génèrent dans la région de la mer Rouge et du canal de Suez. Ça, c'est des choses qui sont pas bonnes pour l'économie, pas bonnes pour la géopolitique, pas bonnes pour la stabilité du monde en général. Et on s'en fout complètement parce que heureusement, alors à l'époque on disait heureusement il y a Findus, ben aujourd'hui c'est heureusement il y a l'intelligence artificielle. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut quand même reconnaître et pour faire le bilan de cette semaine, pour tout résumer en une phrase, on a quand même atteint des plus hauts historiques sur le S&P 500 le jour où le consensus nous dit que les traders ont renoncé à voir une baisse des taux en mars. Si ça, c'est pas vous dire que le marché, il est juste exceptionnel, je sais pas comment faut l'expliquer. Si l'on regarde les performances de la semaine, alors comme je vous le disais, j'étais encore trop gentil, hein, je disais 7% de hausse sur le SOX, c'est 7,98% de hausse, 2,26% de hausse sur le Nasdaq, 1,17% sur le S&P 500, bref, qui termine donc précisément au plus haut de tous les temps, le pétrole qui reprend 1%, le Dow Jones qui reprend 0,7%, par contre, alors on sent quand même que les commentaires plutôt frileux de la part des banquiers centraux, surtout européens. Je rappelle les commentaires de Monsieur Holtzman la semaine dernière qui disait quand même que selon lui, il n'y aura pas de baisse des taux en 2024. En tout cas, c'est pas à exclure. Bien, vous voyez que l'ensemble des marchés européens, que ce soit l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la France, tout le monde termine dans le rouge. Et puis, sur le sujet chinois, bon, on va pas revenir là-dessus. Encore une fois, on a vu que les chiffres chinois sont toujours dégueulasses, que là, on a toujours une crainte qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Bref, il y a une espèce d'engouement. Un engouement négatif, je ne sais pas si on peut dire ça, mais un engouement négatif sur la Chine où tout le monde est en train de tourner, mais excessivement négatif. Vous voyez, le worst performer de la semaine, c'est quand même le Hang Seng qui perd quasiment 6% et qui revient gentiment sur des niveaux qui pourront bientôt, à mon sens, être des niveaux d'achat, en tout cas techniquement, sur le Hang Seng. Après, est-ce qu'à un moment donné, on va avoir un réveil du dragon chinois, allez savoir. Ça paraît quand même peu probable qu'il reste en train de se laisser mourir tout simplement au bord de la route. Et c'est au moment où les gens sont en train de rendre les armes, de rentrer dans ce monstrueux give-up, que finalement peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Le SMI, vous avez aux extrêmes, vous avez Richemont, donc meilleure performance de la semaine. Pourquoi ? Parce que Richemont a sorti des très bons chiffres avec un point positif sur l'aspect chinois. Alors, j'en ai parlé dans le Morning Bull de jeudi, sauf erreur. Donc, Richemont a battu les attentes du marché. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ça se passe bien, surtout du côté chinois. Alors, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je viens de vous dire au niveau de la perception des marchés. Les gens se disent « Oui, mais bon, la Chine va mal. » Mais finalement, les riches chinois, eux, ils consomment toujours des trucs de luxe. Alors, quand vous consommez des trucs de luxe, c'est que globalement, vous n'êtes pas non plus trop stressé pour le reste. Alors évidemment, ce n'est pas représentatif de la population de tous les Chinois, mais enfin, on voit quand même qu'il y a quelque chose là derrière. Donc Richemont termine en tête sur le SMI. Pour le reste, c'est tout beauf. Et on notera surtout en queue de peloton Geberit qui a sorti des outlooks plutôt désagréables, on y reviendra tout à l'heure. Et ABB qui se retrouve un peu embrigadé par les histoires de département de la justice aux États-Unis qui leur reproche de travailler un peu trop avec la Chine. Donc encore une fois, on y reviendra aussi tout à l'heure, les Américains viennent se mêler de nos affaires d'entrepreneurs parce que c'est pas gentil de travailler avec la Chine, parce que la Chine, eh bien, ça arrange pas trop les Américains. Et on se fait juste un petit tour technique sur les indices. Alors, comme je vous le disais, hein, une semaine beauf sur la Suisse. Hein, toutes les nouvelles économiques que l'on a eues et que je vous ai précitées tout à l'heure nous ont donné une semaine plutôt avec une tendance baissière. D'ailleurs, on termine en baisse sur la fin de la semaine. Hein. Ça s'effrite gentiment. On a vraiment une performance pas terrible. Eh bien, encore une fois, la raison principale de tout ça, c'est cette crainte de ne pas voir baisser les taux. Alors, ce qui est assez intéressant à noter, parce que sur le graphique, il n'y a pas grand-chose à repérer, mais en tous les cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se dire mais si les Américains ne baissent pas les taux, ça nous arrange moyen. Mais en fait, c'est les taux américains qui vont être modifiés ou pas. C'est pas les nôtres, mais bon, néanmoins, on a une réaction assez impressionnante. Enfin, impressionnante, on voit que on a besoin d'avoir cet espoir de baisse des taux. C'est ce qui nous a motivés sur l'Europe, comme on le voit sur la Suisse. Par contre, le point positif que l'on a sur le marché suisse, c'est ici, vous voyez, alors là, bam, on est venu taper vraiment la tendance haussière qu'on a ici, on est venu se reposer là avant de redémarrer, donc ça veut aussi dire que sur la zone des 11 050, sur trend ascendant, eh bien ça veut quand même dire quelque chose. On voit déjà qu'on s'était stoppé là, ça fait deux fois de suite qu'on tient, c'est plutôt encourageant. Alors c'est beaucoup moins excitant que le graphique de Nvidia, mais c'est plutôt encourageant. Le DAX, je vous montre le DAX, puisque c'est lui dont on parlait tout à l'heure, l'économie allemande qui est en récession, l'inflation qui repart en Allemagne. Alors vous voyez deux choses. D'abord, là aussi, semaine merdique sur l'Allemagne, une espèce de tendance. J'aime pas trop faire ça sur du court terme. Enfin voilà, pour l'instant, on voit que on revient en direction de ce gros support. Alors ce gros support, c'est quelque chose qu'on a tiré depuis longtemps. Il existe depuis longtemps. On voit qu'on avait buté là-dedans, redescendu, buté là, redescendu, a réussi à casser, mais redescendu quand même ici. Et puis là, finalement, on casse la accélération et là, on revient tester cette zone-là. Et on a vu que cette semaine, on a bien tenu la moyenne mobile des 50 jours. Donc pour l'instant, on a joué ce rebond. Maintenant, c'est cette résistance-là qui va faire effet sur le DAX. Et on verra si on arrive à construire quelque chose pour venir se reposer sur les 16 300 et finalement tirer derrière pour exploser. Mais là aussi, on a besoin de cette histoire de baisse des taux qui s'est plus ou moins annulée ces derniers jours. Voici donc le héros de la semaine, le S&P 500, qui est au plus haut de tous les temps. Alors, si on prend la grande photo, eh bien, vous voyez, la dernière fois qu'on est allé aussi haut, nous étions en janvier 2022, ça fait donc 2 ans. Eh bien, pour fêter ces 2 ans, le record a été battu. Donc, clôture de vendredi soir à 4839,30 sur le S&P 500. Le record est battu. La porte est ouverte à toutes les fenêtres maintenant, puisqu'il n'y a plus de résistance technique. Alors, les plus empiriques vous diront « Oui, alors vu qu'on a fait un premier test ici, et qu'ensuite on a été chercher les plus bas à 3500, c'est-à-dire 1300 points plus haut, maintenant on s'ouvre la porte pour faire un rebalancement de ce mouvement général qui va nous emmener forcément 1300 points plus haut. » Alors voilà, 1300 points plus haut par rapport à là, ça fait un bon bout de chemin. Maintenant, ce ne sera pas pour cette année, parce que je rappelle quand même que le target médian le plus optimiste, il est ici sur le S&P 500, hein, donc ce n'est pas non plus l'euphorie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison les analystes, mais enfin, c'est là-dessus où ça se situe. Que vous dire de plus ? Impressionnant de force. Et là aussi, hein, encore une fois, je reviens sur tout ce que je viens de vous dire. Le marché est monté à cause de la croissance, le marché est monté à cause de l'intelligence artificielle. Toutes les mauvaises nouvelles, on ne veut pas les voir. Je peux vous en parler pendant 25 minutes des choses qui ne vont pas, hein, qui vont pas. On va commencer par l'immobilier commercial qui ne va pas, les gens qui ont des cartes de crédit beaucoup trop élevées, le surendettement massif aux États-Unis, l'emploi qui menace de ralentir. Je peux vous en citer des dizaines et des dizaines de choses qui ne vont pas, mais pour l'instant, il faut essayer de constater que le marché n'en a rien, mais alors rien à foutre de ce qui est en train de se passer ici dans l'économie réelle. On n'est plus en train de parler d'économie réelle, on est en train de parler simplement de bull market. Et là, on a fait un nouveau step sur le bull market, puisque dorénavant, le S&P 500 est donc au plus haut de tous les temps. Le Nasdaq, bah, pareil, hein, Nasdaq, salut, adieu. La résistance qu'on avait, qui datait d'ici, bah, pareil, elle a juste cédé, c'est parti. Et là, on a fait une accélération massive. Alors, notez quand même que depuis le début de l'année, c'est juste quelque chose d'hallucinant ce qu'on est en train de faire. Puisque si on prend les points bas depuis le début de l'année, sur le Nasdaq, on est déjà à 7%. Et on est le 20 janvier, donc on n'a pas fini de rigoler. Et puis alors, on termine par le SOX. Alors de mémoire, je vous ai dit la semaine dernière, oui, le SOX, ce sera assez intéressant à observer parce qu'on est dans une phase un petit peu où on hésite. On est revenu se poser sur la moyenne mobile des 50 jours et que potentiellement, bah, il faudra voir si on arrive à tenir cette moyenne mobile et qu'on ne reparte pas là en bas. Ou alors si on a une accélération. Bon, l'accélération était faite, on a été cassé des plus hauts historiques, on est au plus haut historique. Donc voilà, hein, c'est le secteur des semi-conducteurs qui a porté le marché. La première chose, c'était Taiwan Semiconductor qui a publié des meilleurs chiffres et qui annonce une croissance de leur chiffre d'affaires de 20% pour l'année prochaine. Le titre a explosé, puis il a entraîné avec lui tout le reste. Alors là, vous avez par exemple AMD. Alors AMD, c'est le numéro 2 derrière Nvidia, puisqu'on dit que c'est les prochains à cartonner au niveau de l'intelligence artificielle. Alors voilà, AMD, eh bien, ils ont commencé l'année aussi à 132 balles. Ça vaut 175 et des poussières. 30% de hausse sur AMD depuis le début de l'année. Et puis alors, le winner de la semaine, voilà, Nvidia. Alors, je ne sais pas s'il y a des analystes graphiques, des techniciens qui me suivent. Mais là, on est dans un truc où ça veut juste plus rien dire. Hein. Donc là, on est en train de tout péter. Quand vous lisez les commentaires, on vous dit que Nvidia, c'est la moins chère des Magnificent Seven. Quand vous lisez les recommandations, on vous dit que c'est vraiment bon marché comme action. Elle a pris, donc comme je vous le disais en début de séance, elle a pris 200 milliards de market cap en l'espace de 20 jours. Et depuis le début de l'année, eh bien, comme vous le voyez, si on prend les bas de 2024, eh bien, on est aussi à 26% de hausse sur Nvidia. AMD fait quand même un peu mieux, mais vous voyez qu'on est en plein délire de ce côté-là, parce que l'intelligence artificielle, ah ben, c'est quand même un peu la solution à tout. On continue avec les vedettes de la semaine. Alors, je fais un rapide détour par Meyer Burger et par Richemont, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans le Morning Bull cette semaine, actualité oblige. Alors, Meyer Burger, les panneaux solaires, c'est une catastrophe. Ils font face à une concurrence chinoise monstrueuse. Ça fait baisser les prix, ça devient plus rentable de fabriquer en Europe. Ils ont une usine à Freiberg en Allemagne qui devrait probablement fermer. Enfin, ça va pas très bien. Ils ont vraiment des gros problèmes de concurrence avec nos amis chinois. Ça devient très compliqué. Le titre s'est fait démonter cette semaine. Difficile de voir où c'est que ça va continuer comme ça, mais c'est très, très inquiétant pour Meyer Burger, parce que là, on voit pas comment ils vont réussir à redresser et renverser la vapeur ces prochains temps. Donc, à surveiller. Très mauvaise nouvelle de ce côté-là. Richemont, de l'autre côté, super bonne nouvelle du côté de Richemont. Je vous l'ai dit, perspective positive, encourageante, tout va bien. Ça marche bien en Chine. Bref, rebond, on ne l'attendait pas du tout, celle-là. Hein. Donc, rebond assez spectaculaire sur Richemont, qui a d'ailleurs entraîné avec lui Swatch, mais aussi les grandes sociétés de luxe en France, puisqu'on l'a vu en fin de semaine. Rebond également sur LVMH, Kering et consorts, parce que oui, finalement, il semblerait que les riches chinois éclatent quand même du pognon chez nous. Donc, probablement qu'à Paris, ils sont en train de préparer, vous savez, ces grands panneaux dorés avec des cordes pour faire venir les gens faire la queue devant chez eux pour acheter des sacs à main. Voilà, c'était un point positif pour Richemont, mais aussi un point positif pour le luxe la semaine dernière. Et Lindensprüngli. Alors, Lindensprüngli, relativement bonne performance. Hein. On a vu les problèmes de Barry Calbo il y a quelques jours, et bien maintenant, on voit que Lindensprüngli, ils ont amélioré leur vente malgré l'inflation, malgré le prix du chocolat. Donc très très bon résultat du côté de Lindensprüngli. Ça veut dire qu'il y a quand même des sociétés qui sont hyper bien gérées par rapport à la situation extrêmement stressante dans laquelle nous sommes au niveau de l'inflation et du coût des matières premières. Donc vous voyez Lindensprüngli. Alors effectivement, l'annonce qu'ils ont fait la semaine dernière a bien boosté le titre, qui est passé de 10 500 balles à quasiment 11 200 au plus haut. Bon, on se replie un petit peu, hein, parce qu'on n'a pris des profits derrière, bien sûr. Mais ce qu'il faut quand même retenir sur Lindon Sprungli, c'est que bah, sur les années, ils ont fait une performance quand même assez exceptionnelle. Si mon truc veut bien charger ce matin, mais ça veut pas, voilà, ça arrive. Et bah, vous voyez que ça reste quand même quelque chose d'extrêmement solide sur le long, long, long terme. Alors oui, on nous a un petit peu fait un pétage de plomb à l'époque, durant la phase post-Covid 2022. Mais l'un dans l'autre, si on fait de l'analyse sur le long terme, ça reste vraiment un truc fond de portefeuille, regardez la tendance. Alors oui, forcément, il y aura des faiblesses, ça c'est sûr, mais l'un dans l'autre, il n'y a rien à dire de ce côté Lindon Sprungli. Donc tout va bien de ce côté-là, et très très bonne nouvelle annoncée cette semaine. Doc Morris, vous vous souvenez, cette sourde rosée, c'est cette boîte sur laquelle on a spéculé pendant 2 ans pratiquement pour qu'ils aient l'autorisation de faire leurs ordonnances électroniques en Allemagne. En fin d'année dernière, ils ont reçu l'autorisation, donc les ordonnances électroniques sont devenues légales en Allemagne. Résultat, on n'en a pas trop parlé, hein, mais par contre, Doc Morris commence à retrouver des couleurs et finalement, son business plan de base, qui était de fonctionner avec ses ordonnances électroniques, eh bien, est en train de bien fonctionner, et on voit que les résultats augmentent, que les chiffres d'affaires augmentent et que les chiffres sont plutôt encourageants, et on a l'impression que le business plan est en train à l'heure actuelle de se mettre en place correctement et de croître gentiment. Donc, il semblerait que ceux qui ont parlé là-dessus sur faiblesse, eh bien, ils sont en train d'avoir raison, donc ça se passe relativement bien pour Doc Morris pour l'instant. Il faudra voir bien évidemment au fur et à mesure, mais en tout cas, on est content de voir que ce qu'on attendait, ça s'est mis en place et ça fonctionne. Alors vous le voyez, on n'est pas encore vraiment revenu au niveau historique, hein, ici, de 2021 à l'époque des mêmes stocks où c'était du total délire. Néanmoins, sur cette semaine, alors la petite bonne nouvelle de l'autre jour a permis de redémarrer un petit peu, mais vous voyez quand même que bah, l'un dans l'autre, on voit que gentiment les choses se reconstruisent. Alors je sais pas où c'est que ça peut remonter, mais en tous les cas, globalement, on a fait une méga base sur Doc Morris, un business plan qui se déroule comme prévu, une forme d'accélération dans la tendance haussière et dans la consolidation. Peut-être qu'il faudra quand même garder un œil sur cette action ces prochains temps. Dans la série Le downgrade de la semaine chez UBS, on parlera de Stadler Rail. Alors eh ben, tout simplement, l'UBS a passé le titre de buy à sell. Donc Stadler s'est fait démonter sur l'annonce de 6,7%. Et comme je vous le dis régulièrement, quand l'UBS décide de vendre, généralement ça prend un peu de temps. Alors bon, la bonne nouvelle, c'est que Stadler Rail, tous les clients n'ont pas du Stadler Rail dans leur position, mais en même temps, quand vous avez un gros consommateur de titres suisses comme l'UBS qui n'est plus là, sur Stadler Rail, ça risque d'être un petit peu compliqué ces prochains temps. Ah, le graphique se passe de commentaires. Alors je suis pas un fan de cette action et je la suis pas forcément très très précisément, mais si vous regardez tout simplement ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on avait fait un bas en octobre 2022, on est revenu dessus. Voilà, ok. Donc, maintenant, de deux choses l'une, soit le titre nous fait un rebond de la mort qui tue, parce qu'il se passe quelque chose, mais vu ce que VLUBS vient de nous annoncer, ça me paraît quand même peu probable que les ordres de vente s'arrêtent de sitôt. Donc, ce qui voudrait dire que quand on va aller casser ces 25 balles, grosso modo, on a peut-être une bonne chance d'aller chercher encore plus bas sur Stadler Rail. Alors voilà, j'entends, je suis pas l'avocat de jouer la baisse, mais s'il y a une cassure sur les 25, on pourrait aller chercher un peu plus bas sur Stadler Rail ces prochains temps en tous les cas. Geberit, alors Geberit, on reparle bâtiment, on reparle sanitaire. Alors Geberit, la théorie de base, c'est toujours de dire oui, et ben de toute façon on aura toujours besoin d'aller aux toilettes, donc il y aura toujours besoin de sanitaire. Ouais, c'est pas faux, mais enfin pour l'instant ils ont publié des chiffres qui étaient pas waouh waouh. Chiffre d'affaires de 3,08 milliards de francs suisses l'an dernier, en repli de 9,1% sur une année quand même. La marge opérationnelle est attendue à 30%. Alors pour l'instant, ils s'attendent surtout, et c'est ça que le marché a pas trop aimé, à une poursuite de l'affaiblissement dans la conjoncture immobilière et de la construction du bâtiment, blablabla, fin de leur business. Et donc ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Alors Geberit sous pression. Et puis juste après cette annonce, forcément, dans la foulée, 3 banques sont venues downgrader le titre. Et c'est des visionnaires, bien sûr. Hein. Vous avez une boîte qui va bien, et puis tout d'un coup, vous dites « Ouh, ça va mal !» Puis tout le monde dit « Ah, on downgrade !» Voilà, voilà, bon, downgrade, grosse surprise, Chevreux qui downgrade, Odo qui downgrade, DZ Bank qui downgrade, voilà, tout le monde, les amis, Underperform, Cell, tout ce que vous voulez, Reduce, bref, donc mauvaise semaine et mauvaise perspective pour Geberit. Voilà donc pour Geberit ce qu'on pouvait dire, le graphique ne prête pas grand intérêt, si ce n'est qu'on avait bien rebondi lors de la dernière publication des chiffres et qu'aujourd'hui, on est en train de revenir sur la moyenne mobile des 200 jours autour des 480 francs. Il faudra surveiller quand même si on la casse pas, parce que sinon on peut aller combler, je crois qu'il reste un gap après ce qu'on avait fait lors de la dernière publication justement, qui pourrait être comblé. Gros support sur les 408 pour Geberit, et ben l'avenir de la construction et l'avenir de l'immobilier nous donnera un petit peu le beat et le rythme cardiaque pour la société. On enchaîne tout de suite avec ABB qui était aussi un peu sous pression cette semaine, puisqu'il semblerait, selon Bloomberg, qu'ils ont reçu des convocations ou en tout cas des lettres de réclamation d'information de la part de certaines commissions du Congrès américain qui leur reprochent de fricoter un tout petit peu trop avec les Chinois. Alors j'adore toujours ce genre de choses parce que les Américains, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent. On va pas revenir sur le sujet du secret bancaire et du Delaware et tout ce qu'ils nous ont fait à l'époque, mais en tous les cas, c'est extraordinaire comme quoi le gendarme du monde est encore en train de foutre leur nez dans toutes les affaires de tout le monde pour voir ce qui pourrait déranger. Donc en fait, oui, effectivement, ABB travaille avec les Chinois, et tout ce qui peut être robotique, tout ce qui peut être intelligence artificielle, qui pourrait être donné aux Chinois pour qu'ils puissent évoluer aussi rapidement que les gentils Américains, ça convient pas vraiment à la série Netflix que l'équipe à Biden sont en train de se monter là-bas. Le seul problème, c'est qu'à la fin, les Chinois, ils trouveront toujours un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. Eh oui, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et quand vous regardez, par exemple, Nvidia, il y avait des rumeurs aussi la semaine dernière, comme quoi toutes les chips d'intelligence artificielle que les États-Unis ont renoncé à vendre, interdit plutôt à Nvidia de vendre aux Chinois, eh bien, il semblerait que les mecs, ils arrivent quand même à bosser avec des puces Nvidia, des vrais, qu'ils ont récupéré, allez savoir où. Alors, je sais pas. Il est vrai que quelque part, on peut se poser la question, hein. Peut-être qu'il y a des boîtes qui achètent des puces Nvidia, puis après qu'ils les réexportent en Chine. Ouh, les méchants, ils sont pas gentils avec les Américains. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on va pas faire un débat sur le sujet, mais disons que les Américains sont en train d'essayer de mettre les pieds dans le plat pour empêcher ABB de faire du business, parce que sinon, ils travaillent pas avec les gentils Américains, et puis c'est pas gentil, et puis ça va pas bien dans leur scénario hollywoodien. Donc du coup, ben voilà, bam sur ABB. Donc ABB avait été chercher les 38, et aujourd'hui, avec la nouvelle de l'autre jour, eh bien on revient sur les 35 balles, sur le point de la moyenne mobile des 50 jours. J'ai un peu peur que cette pression politique américaine puisse durer un petit peu, et on pourrait, là vous voyez que si on tient pas ces niveaux de 35, ça va être compliqué, mais on pourrait revenir assez facilement sur les 33-40 pour aller chercher la moyenne mobile des 200 jours, dans le pire des cas. En tout cas, ça fait bien bip que les Américains se mêlent encore des affaires de tout le monde une fois de plus. Tout à l'heure, je vous parlais de l'effet magique des downgrades d'UBS. Ici, vous avez le graphique d'une société qui s'appelle Implenia, que vous avez forcément tous vu et entendu quelque part dans la rue faire des travaux. UBS a upgradé Implenia la semaine dernière. Le titre a pris 13% sur la nouvelle. Même principe. Hein. Si tout d'un coup UBS recommande un titre sur le long terme pour ses investisseurs, pour ses clients, eh bien quand tout le monde commencera à en acheter, qu'ils ont déjà visiblement anticipé un petit peu, ça pourrait donner un coup de fouet à l'action. Donc vous voyez aujourd'hui que le potentiel de Implenia est plus que correct. Alors UBS a un target à 41, pas non plus à 150, mais à la vitesse où ils arrivent à la faire remonter, c'est pas exclu que le target il soit atteint dans quelques semaines. En tous les cas, vous le voyez, comme je l'avais expliqué sur la version downgrade, eh bien ça marche aussi sur la version upgrade. Et target donc 41 selon l'UBS, avec une résistance technique au point des 43,5 sur le titre pour information. Voilà ce que l'on pouvait raconter de cette semaine assez magique, et cette semaine qui s'est donc conclue sur un record historique du S&P 500, et qui nous montre que eh bien l'intelligence artificielle, c'est plus fort que tout, c'est plus fort que toi, mais c'est surtout plus fort que l'inflation et que la baisse des taux. On verra si cet optimisme exacerbé continue. La semaine prochaine, il y aura beaucoup de résultats qui vont commencer à arriver, des résultats bien sérieux avec des Netflix, avec des Tesla. Tesla, ce sera intéressant, surtout depuis que Elon Musk est en train de se fâcher avec tout le monde. Donc regardez un petit peu la liste qu'il y aura la semaine prochaine au niveau des résultats. On s'approche aussi du meeting de la Fed, ça va nous occuper ces prochains temps. Bref, tout ça nous dit qu'on n'a pas fini de parler ni d'inflation, ni de baisse des taux, ni de hausse des taux, ni d'accélération de la croissance, ni de ralentissement du marché de l'emploi. Et puis après, on va prendre chaque chiffre et regarder en détail ce qu'on peut faire. À noter pour Netflix qui sortira cette semaine, qu'il y a une banque américaine qui l'a upgradé avec un target stratosphérique cette semaine en disant qu'ils avaient gagné la guerre du streaming. On aura la confirmation cette semaine. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour ce Swiss Bliss. Il me reste à vous encourager à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Aujourd'hui, on est à 35 750 followers, quelque chose comme ça. J'aimerais bien qu'on arrive rapidement à 40 000, comme ça on pourra se fixer un target à 50, et puis à 50, on trouvera bien un truc à faire pour fêter la chose. En tout cas, un pari à mettre en place, ou quelque chose à dynamiser pour essayer de vous motiver à en parler à tout le monde autour de vous. Donc d'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager, et à revenir me voir le week-end prochain pour un Swiss Bliss. Ou alors, si c'est vraiment urgent, lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Voilà, excellente journée, excellent week-end. Et on se retrouve lundi, comme d'habitude. Soyez forts, soyez en forme, profitez des quelques rayons de soleil que l'on verra. Sortez couverts, il fait super froid. Et on se voit lundi. Bye bye.